Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes dans Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la critique marxienne du capitalisme à partir du numéro 1 de la revue Stoff. Et pour en parler, nous sommes avec deux membres du collectif Stoff. Donc bonjour.
Bonjour.
Salut.
Donc voilà, votre revue sort un premier numéro qui voilà, met un peu les pieds dans le plat dès la trame, donc qui est une sorte d'éditorial ou de manifeste relativement court qui explique un petit peu les raisons de votre projet à la fois de revue et aussi de votre projet d'intervention dans les débats politiques et théoriques qui peuvent agiter, disons, l'extrême gauche ou l'ultra gauche en France et plus largement en Europe. Et donc, dans cette trame, vous vous positionnez donc clairement plutôt du côté évidemment d'une critique marxienne du capitalisme, mais pour autant vous prenez quand même vos distances de manière assez polémique, dirons-nous, avec la critique de la valeur d'une part, et d'autre part la communisation, notamment incarnée en France par théorie communiste, même si vous semblez plus proche de cette position-là. Et puis d'autre part, vous vous positionnez de manière polémique vis-à-vis de ce que de la critique décoloniale, du tournant ontologique ou encore de ce qu'on peut appeler l'apellisme. Donc est-ce que vous pourriez un peu commencer par expliquer aux auditeurs et aux auditrices, voilà, quelle est, disons, la singularité, l'originalité de votre projet de revue par rapport à votre positionnement, par rapport aux différents courants que je viens de dénoncer, et puis plus généralement, voilà, quel est le projet de cette revue en termes d'intervention politique et théorique dans le débat plus général, et puis aussi l'originalité du fonctionnement que vous avez choisi pour intervenir dans ce débat.
Moi, si je peux commencer, je dirais qu'en fait, s'il s'agit de se positionner par rapport à ces différents courants, c'est plus un prétexte qu'une fin en soi. Il ne s'agit pas forcément de se situer dans un débat qui serait purement interne à ces différents milieux, ça n'aurait pas grand intérêt. En revanche, du coup, un petit peu le but de ce texte qu'on a écrit collectivement, comme les autres textes, mais sous une forme un peu différente, ça a été précisément un petit peu de définir une position qui n'est pas celle qui consiste à se donner un horizon parfaitement clair et en quelque sorte prédéterminé pour nos réflexions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'emblée de dire que la révolution de notre époque, c'est ça. Donc, à partir de ce point de vue, critiquer les luttes que nous voyons aujourd'hui. Il ne s'agit pas non plus de dire que, en fait, au moindre signe d'un mouvement qui émerge, on aurait déjà un petit peu en fait, les signes avant-coureurs d'une insurrection. Donc ça, c'est pour relativement effectivement à cette théorie de la révolution qui est la communisation, et par rapport à cette pratique et cette théorie que tu as qualifiée d'appelliste. Et puis d'autre part, il ne s'agit pas non plus de se donner comme horizon l'élaboration d'une super théorie qui va nous permettre de former une sorte de corpus et ainsi de comprendre aussi bien le capitalisme que le rôle que joue dans le capitalisme la domination masculine, et puis tout un tas d'autres thèmes qu'il s'agirait en quelque sorte d'emblée d'incorporer dans un système préexistant. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'aspect non programmatique de ce texte. En fait, il s'agit de dire que justement, en fait, nous sommes dans une phase où ça a plus de sens pour nous de comprendre notre impuissance, c'est-à-dire précisément l'absence de conditions pour une intervention telle qu'on a pu le concevoir de différentes manières au cours du XXe siècle. Et donc, à partir de là, d'essayer d'en tirer les conséquences, en fait, les conséquences pour notre démarche de réflexion, que ce soit par rapport aux objets qu'on se donne quand on réfléchit, ou que ce soit dans la manière de traiter ces objets.
Alors, pour préciser un petit peu là, cette question de l'impuissance dans laquelle on se trouve et qui constitue un petit peu le point de vue duquel on aborde les questions, en fait, c'est aussi un constat qu'on a fait, qui est celui de l'obsolescence de ce sujet révolutionnaire auquel on a pu attribuer un rôle fondamental dans l'histoire, qui est la classe ouvrière structurée autour du travail, avec ses institutions syndicales et son espoir dans la révolution imminente. On n'est pas les seuls à faire ce constat, que suite à la phase qu'on peut avoir l'habitude de nommer la restructuration après les années fin des années 60, années 70, ces mouvements ouvriers ont décliné et ont laissé place à de nouvelles options théoriques. Alors, il y en a deux grandes options théoriques comme ça, dans lesquelles on se reconnaît pas tout à fait, et on a voulu aussi prendre nos distances par rapport à ça. L'une étant de dire que du coup la révolution est une affaire de décision existentielle, qu'il faut s'engager et inventer une nouvelle façon de vivre, et ça, ce serait un petit peu la stratégie portée par l'appellisme, si on veut. Et une autre, qui est assez présente dans d'autres contextes, qui est aussi dans le milieu français un petit peu présente, celle de la critique de la valeur, qui consiste à dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de classe, que les conflits qui ont lieu dans nos sociétés sont déjà intégrés par avance aux finalités du système, qu'ils ne sont que fonction de la structure, et que du coup il n'y a d'une certaine manière qu'à attendre que les contradictions internes du système pousse la crise jusqu'à son plus haut point, et en fait on rejoint des sortes d'attentisme de l'effondrement par la contradiction du capitalisme. Et ça, c'est deux positions, un peu là, le spontanéisme ou bien l'attentisme qui nous semblait insatisfaisante. Et du coup, nous, ce qu'on a envie de faire dans cette revue-là, c'est pas de dire quelle doit être la stratégie politique à mener, mais de savoir déjà comment comprendre ces différentes contradictions dans lesquelles on vit, la complexité de la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui, et ce qui caractérise du coup notre impuissance dans cette société-là, avec une lucidité et surtout, et je pense que c'est quelque chose de très important, une approche un peu empirique de la complexité des objets qui ne présuppose pas leur fonction dans notre projet politique, dans notre stratégie. Ça, c'est un petit peu pour expliquer le ton qui peut être un peu polémique de notre trame, ce texte introductif.
Oui, du coup, si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un texte programmatique, mais plutôt vous essayez de pointer les limites, disons, de différentes approches théoriques, alors de manière polémique, parce que voilà, le style du texte s'y prête, mais sans proposer quelque chose derrière, donc peut-être comme une espèce de posture un petit peu critique de la critique ou de puissance du négatif, entre guillemets, où vous essayez de montrer que finalement, malgré l'apparente, entre guillemets, sérénité des grandes théories critiques et révolutionnaires qui moulinent tout ce qui se passe en disant « Ah bah ça, on l'avait prévu », soit que la critique de la valeur dise « Ah bah ça, on l'avait prévu, c'est le populisme transversal, c'est l'anticapitalisme tronqué », ou c'est le mouvement de la lutte des classes, ou c'est l'insurrection des multitudes, etc. Ce que vous essayez de proposer, c'est plus une espèce de pensée en mouvement, qui est en construction, d'une certaine manière, qui du coup a aussi l'avantage que il n'y a pas de position théorique et aussi politique arrêtée, et que, évidemment, ça ouvre la voie à des interprétations originales de phénomènes nouveaux, comme par exemple le populisme. On en parlera dans une autre émission, mais vous proposez une interprétation un peu originale du populisme, ou alors de proposer des approches de sujets comme la techno ou l'antisémitisme, qui sont le sujet de deux autres articles de la revue numéro 1. Voilà, de proposer une approche un petit peu originale qui tranche un petit peu avec les grandes méga-théories qui, disons, moulinent tous les nouveaux sujets qui peuvent apparaître et où finalement, d'une certaine manière, on sait déjà, quand un phénomène nouveau apparaît, quelle va être la position de la critique de la valeur dessus, et la position de théorie communiste dessus, et la position de l'appellisme dessus, alors que vous essayez justement peut-être d'être un petit peu moins prédictible. Et ce qui fait aussi, si j'ai bien compris, de cette revue aussi un espace de débat et de recherche aussi collective, plutôt qu'un espace d'application d'une théorie déjà préformée, et où finalement il s'agirait simplement d'appliquer une théorie pure et parfaite à des nouveaux sujets. Il y a un peu l'impression qu'on a quand on lit, par exemple, une revue comme Jaggernaut, malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver par ailleurs.
Oui, il y a de ça, et je crois que du point de vue des projets que ces différentes revues que tu as mentionnées élaborent, il peut y avoir quelque chose de décevant, voire de dérisoire, en fait, dans cette trame, voire dans ce projet de revue, parce que du point de vue de leur fonctionnement, projet, il y a ce site commun qu'il s'agit, en fait, d'élaborer une ligne, d'accord, de définir une ligne qui doit être le fil conducteur, en quelque sorte cumulatif. Chaque nouveau numéro de la revue doit justement venir se joindre à ce corpus dont je parlais avant, et donc petit à petit porter une nouvelle pièce maîtresse pour la compréhension de la crise potentiellement finale dans laquelle on se trouve, ou encore pour comprendre où on en est dans la contradiction entre les classes et les genres. Maintenant, je dirais pas pour autant qu'il y a absolument aucun principe ou aucun fil conducteur dans notre fonctionnement. C'est pas non plus un collectif qui promeut une sorte de pluralisme sans cadre. Quand il s'agit pas de promouvoir l'ouverture pour l'ouverture non plus. En ce sens, je pense qu'on peut voir aussi dans la trame un certain nombre de lignes ou de lignes rouges qui sont tracées. C'est intéressant que tu insistes autant sur la critique de la valeur, sur la théorie de la communisation, etc. Parce que, bon, en fait, nous, comme le disait mon camarade, on n'est pas forcément dans une démarche qui consisterait à nier l'existence de fortes tendances historiques, comme notamment la tendance par laquelle le mouvement ouvrier s'est désintégré avec la restructuration du capital. On n'est pas non plus contre toute analyse en termes de crise du capitalisme. Simplement, là où, en effet, il y a une sorte de dimension un peu d'enquête, aussi une dimension un peu plus empirique, comme le disait mon camarade auparavant, c'est dans le fait de pas poser d'emblée qu'en fait, en quelque sorte, nous, notre propos serait déjà en train d'indiquer l'orientation lourde et générale de l'histoire. Ça, en fait, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas encore joué. Ou alors, pour le dire autrement, quand on constate, par exemple, comme le font ces différents courants théoriques de différentes manières, qu'on ne peut plus croire en l'existence d'un sujet révolutionnaire, en fait, quelque part, on ne peut pas se contenter de ce constat négatif. En fait, la dislocation et la désintégration de ces anciennes formes du rapport capital-travail, en fait, elles ont donné lieu à des recompositions. On a mentionné le populisme. Plus généralement encore, les liens internes entre populisme et nationalisme, les nouvelles formes de stigmatisation raciale, voilà autant de formes sociales qui requièrent une démarche qui, si elle veut atteindre quelque chose de la spécificité de ces réalités, une démarche qui du coup ne peut pas être purement déductive, en fait, qui ne peut pas simplement se contenter de toujours ressasser les mêmes, à partir des mêmes prémices, des propositions théoriques un peu générales. Voilà, c'est juste pour dire qu'il ne s'agit pas non plus de promouvoir l'éclectisme. Et l'exercice un petit peu difficile de cette trame collective, ça a été justement de reconstituer à partir de nos enquêtes respectives ce qui, pour nous, les unit dans la discussion, en fait, ou ce qui, aussi, en quelque sorte, au préalable, les a unis dans la discussion, puisque c'est des projets d'écriture qui sont nés au fil de discussions, en fait, ou discussions relatives, non seulement à ces sujets sociaux et politiques dont on traite, mais aussi relativement à la place de l'esthétique dans cette constellation.
Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, on prend en considération ces recompositions politiques qui font suite à cette désintégration du sujet révolutionnaire tel qu'on l'attendait à l'époque. On est aussi dans une démarche qui essaye de ne pas idéaliser ce qu'a été ou ce qu'aurait dû être ce sujet révolutionnaire et donc prendre un peu du recul par rapport à un grand récit de l'émancipation ouvrière par un prolétariat intégré dans le travail, principalement blanc. On essaye aussi, de relire un peu cette histoire-là à travers un prisme différent. Et une autre remarque sur ce que tu as dit, bon, on observe des recompositions contemporaines des identités politiques ou des configurations politiques autour du populisme, autour de nouvelles formes de stigmatisation raciale. Et on ne cherche pas, en se faisant, à trouver une solution à notre malaise politique, à notre impuissance. On est avant tout dans une démarche de lucidité et d'essayer de finalement prendre toute la mesure du pessimisme qui nous habite, sans projeter notre idéal politique, qui est sans conteste le communisme, sur la réalité, sur ce qu'elle devrait être. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi de voir l'ambivalence de certains phénomènes, de ne pas disqualifier par avance les phénomènes contemporains. Voilà, donc ça, c'est des choses dont on parlera progressivement. Ça peut prendre plusieurs facettes, mais par exemple sur le phénomène du populisme ou sur des phénomènes esthétiques, hein, sur la culture populaire, par exemple.
Du coup, si je comprends bien, votre projet, c'est de partir quand même de quelque chose de relativement consensuel au sein du collectif qui est la critique marxienne du capitalisme, mais à partir de ça, sans qu'il y ait un programme théorique et politique prédéfini, mais en même temps, ce que vous dites, c'est que vous cherchez à améliorer votre compréhension des phénomènes présents. Mais du coup, pourquoi ? Pourquoi améliorer cette compréhension ? Puisque vous semblez, dans la trame, ne pas non plus être dans une démarche de la connaissance pour la connaissance, de mieux connaître le capitalisme pour ne pas être le dernier aliéné de service. Voilà. Comment est-ce que du coup vous jouez avec cette espèce de tension, j'ai l'impression, dans la trame, entre avoir un projet de compréhension un petit peu fine des phénomènes nouveaux sans plaquer les grands schémas politiques et théoriques préétablis, mais sans non plus prétendre à une démarche un petit peu d'Aufklärung, d'apporter des lumières et aussi d'être si ce n'est pas pour apporter des lumières aux autres, de s'apporter des lumières à soi-même.
Alors c'est une question qui nous tourmente en effet, parce qu'on est un peu pris dans cette alternative impossible. Du coup, soit disposer d'une stratégie politique prédéfinie et d'un appareil critique qui nous orienterait par avance, soit renoncer en fait à une finalité politique à notre théorie. Alors un élément déjà, de dire que la théorie pour nous n'est pas ce qui déterminerait les luttes à venir et leur réussite. On pense, avec d'autres d'ailleurs, que la compréhension du réel et la théorie émergent de ces luttes, de ces mouvements, de ces expériences qui existent en fait autour de nous, et qu'on veut, on souhaite dégager une certaine compréhension que ces mouvements et ces personnes et ces acteurs se font d'eux-mêmes et du monde dans lequel, contre lequel ils et elles agissent.
Puis cette question aussi des lumières, etc. Donc il ne s'agit pas de faire de l'Aufklärung et ainsi de suite. Et la question du pourquoi on fait ce qu'on fait, je crois que ça répond aussi à un besoin qui, comme ça vient d'être rappelé, et relève en fait des mouvements dans lesquels nous sommes de fait engagés. Je ne dis pas ça au sens nécessairement d'une position activiste qui vise à intervenir sur ces mouvements, mais plutôt au sens de mouvements historiques qui transforment des choses qui nous concernent. Et c'est dans ce cadre-là que naît pour nous le besoin de s'orienter dans ces situations. Pour nous, l'élaboration théorique, qui se fait du coup en lien avec des enquêtes, qui essayent en fait un peu de dresser des diagnostics sur l'état des choses tel qu'il est, bah, il répond à ce besoin-là, ce besoin de s'orienter, c'est-à-dire de se situer dans ce tout que forment ces innombrables transformations de types différents auxquels nous sommes confrontés. L'ouverture dont il était question avant, elle tient à ça, en fait. Elle tient à ce que, en fait, il n'y a pas a priori des objets qui nous semblent exclus d'une réflexion sur où nous en sommes aujourd'hui et en quoi, en fait, les choses sont en train de profondément changer. Et
encore une dernière remarque. Enfin, je pense qu'une des finalités centrales qu'on accorde à notre projet, à notre travail, c'est peut-être de ne pas se faire d'illusions sur la situation réelle. Peut-être un travail critique, principalement, mais qui peut aussi offrir des pistes pour penser des brèches dans le monde dans lequel on est pris. Mais sans vouloir devancer les actions politiques qui existent.
Oui, du coup, une position qui est à la fois critique, c'est-à-dire qui n'est pas dans une forme d'exaltation de tout ce qui apparaît, ce serait déjà le mouvement réel du communisme, mais pas non plus une posture qui serait purement négative, comme on peut le voir un petit peu dans la critique de la valeur, où finalement, tout ce qui se passe dans la réalité est ramené à une forme d'anticapitalisme tronqué et de populisme transversal qui n'aurait aucun intérêt, qui serait purement dans l'erreur. J'ai l'impression que même si vous avez une démarche critique très forte, il y a une tentative de ne pas céder trop facilement à des jugements un peu péremptoires et définitifs sur des mouvements réels, justement, que vous essayez d'appréhender avec un peu plus de complexité et de finesse, tout en ayant une position très claire, par exemple, par rapport au populisme ou à l'antisémitisme, mais sans tomber effectivement peut-être dans une caricature de ce que c'est que l'antisémitisme ou de ce que c'est que le populisme. Donc il y a un peu, par rapport à ça, j'ai l'impression aussi une espèce de tension dialectique. J'ai l'impression d'ailleurs que votre projet se fait aussi beaucoup autour d'une base relativement solide qui est la critique marxienne du capitalisme, mais pas forcément de tentative de résolution, entre guillemets, des contradictions qui peuvent émerger de la critique marxienne du capitalisme, à la fois en termes de sur tel ou tel sujet. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tentative de fixer une fois pour toutes ce qu'on peut penser ou ce qu'on doit penser de l'antisémitisme ou du populisme, même s'il y a quand même une tentative de faire le tour du sujet qui est très intéressante et où on rentre un peu justement dans la complexité de ces sujets.
Bah, ça nous amène un peu au rôle qu'on accorde à ce cadre d'analyse dont on hérite, qui a été constitué par Marx et par tous les mouvements qui sont ressaisis de sa pensée, voilà, la critique marxienne du capitalisme. Et effectivement, on peut se ressaisir de nombreux éléments critiques de cette pensée sans forcément les intégrer par avance dans un cadre, une lecture de l'histoire déjà orientée ou déjà dirigée vers la révolution finale et qui devrait s'accomplir par une sorte de nécessité. Ça, c'est vraiment une lecture assez classique qu'on refuse. Ce que nous permet cette critique marxienne de l'économie politique, c'est de nous fixer le cadre dans lequel nous pouvons penser les objets qui s'offrent à nous, les mouvements politiques, les objets esthétiques, culturels, les différentes situations. Et un cadre qui permet de tracer une méthodologie minimale sans pour autant épuiser le sens de ces phénomènes. Donc en fait, c'est vraiment une sorte d'un premier appareil qu'on a, mais on ne veut pas réduire du coup les phénomènes qu'on observe à des concepts de la critique de l'économie politique.
Moi, j'ai l'impression que ce qu'on retient le plus de la critique de l'économie politique, c'est précisément le fait qu'elle c'est la modélisation la plus aboutie, le tableau général le plus abouti de ce qui relève essentiellement de ce que nous appelons capitalisme, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité de la société organisée autour de la production marchande ou autour, pourrait-on dire aussi, de l'exploitation qui passe par les marchés capitalistes. Ouais, en effet, il faut vraiment le voir comme une méthodologie minimale. Dans le sens où, là encore, comme on le disait avant, en fait, il ne s'agit pas de déduire de ces différentes catégories, hein, que ce soit celle de travail concret, de travail abstrait, de valeur d'usage, de valeur d'échange. Il ne s'agit pas de déduire de ces différentes catégories des théories toutes faites. Il s'agirait de plaquer. Il s'agit au contraire, en fait, de s'en servir comme des bases d'une compréhension de ce qui définit, en fait, les possibles et les limites les potentiels et les obstacles qui structurent notre société. Donc c'est en ce sens que c'est un cadre, c'est-à-dire c'est un cadre non seulement théorique, mais c'est aussi quelque chose qui pour nous définit le cadre dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire le cadre réel, notamment de la politique institutionnalisée aujourd'hui. Dans le cadre actuel, c'est pas un fait nouveau, et c'est éminemment naïf de penser qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une critique du capitalisme en tant que tel dans nos institutions, c'est-à-dire au Parlement, ou même dans un certain sens dans les syndicats. Là encore, donc, ça pourrait sembler contradictoire. On pourrait avoir l'impression qu'on est en train de dire, nous, de se poser en juge relativement à ce qui peut se faire ou non, c'est-à-dire à condamner des mouvements d'avance, en quelque sorte, à les déclarer mort-nés. Donc, mais en fait, c'est pas non plus ça qui correspond à ce qu'on fait, puisque en fait, il s'agit non pas de condamner des choses d'avance, mais plutôt là encore, de se servir de la théorie comme apportant des éléments de réponse à des questions qu'on se pose aussi relativement à notre propre positionnement et relativement à nos propres activités dans les mouvements et dans les luttes dans lesquelles nous sommes embarqués.
Oui, et par rapport à ce qui transparaît dans la trame, on sent qu'il y a une critique très forte de posture idéaliste, comme celle du tournant ontologique, par exemple. Et en même temps, on a l'impression que votre originalité, peut-être par rapport à la critique de la valeur ou à la communisation, c'est de tenter d'échapper, peut-être plus que ses courants, à un certain économicisme qui a longtemps dominé dans la critique marxienne, dans le marxisme, d'où le fait de penser la culture, l'esthétique ou l'idéologie, des thèmes qui parfois sont traités dans la critique marxienne du capitalisme ou dans le marxisme, mais souvent de manière un petit peu schématique. Et donc, je voulais vous poser, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la question du matérialisme? Est-ce que vous diriez que vous avez une approche matérialiste ou non? Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au grand débat épistémologique, entre guillemets, en termes de théorie du capitalisme, par rapport à l'articulation entre infrastructure et superstructure, l'autonomie de l'idéologie ou des phénomènes culturels? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces débats un petit peu centraux dans la critique marxienne et marxiste du capitalisme?
Moi, ce qui me gêne, en fait, avec cette espèce de posture qui est la revendication d'une approche matérialiste de X, Y ou Z, c'est en fait finalement que ça consiste souvent à faire disparaître la spécificité de l'objet qu'on est en train d'étudier. Pour le coup, moi, je pense que Poston, c'est un assez bon exemple ici. Poston et sa conception de l'antisémitisme. Donc, c'est une conception qui prétend partir du rapport entre le concret de la valeur d'usage et l'abstrait de la valeur d'échange pour en déduire un modèle d'analyse de l'antisémitisme qui reposerait sur cette même opposition entre le concret du travail et de l'industrie contre l'abstraction des dimensions plus abstraites du capital sous la forme de la finance notamment. Si on devait qualifier ça d'approche matérialiste, ça montre assez bien du coup en quoi c'est finalement une démarche qui consiste à vouloir réduire les phénomènes auxquels on s'intéresse à des exemples de catégories. D'accord ? Il s'agit en fait, en quelque sorte, de dire que, en fait, on a là une expression ou juste une sorte de reflet phénoménal, concret, de structures plus fondamentales dont nous disposons déjà. Pour moi, approche matérialiste 2, ça évoque souvent ça. Ça peut valoir pour d'autres choses, hein. Ça peut valoir donc voilà, revendiquer une approche matérialiste de la racialisation, par exemple, ou du racisme, en fonction des concepts choisis. Ça va vouloir dire, en fait, cette réalité, elle correspond à ces catégories qui sont déjà les catégories de la critique de l'économie politique. Donc, en fait, d'emblée, on sait que c'est un phénomène qui doit être rapporté à la division du travail, par exemple, ou à la segmentation des classes, à leur structuration en différentes fractions qui ont des positions différentes dans le rapport au capital. Bon, là encore, la réponse paraîtra peut-être décevante parce qu'elle est négative pour l'instant. Pour répondre de manière positive, je dirais que par conséquent, nous ne revendiquons pas d'avoir une approche matérialiste des choses dans la mesure où, précisément, approche matérialiste veut souvent dire réductionnisme. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que nous récusons le matérialisme. Ça, simplement, en fait, en disant qu'on est matérialiste, la plupart du temps, on n'a rien dit. Parce qu'il faut, il faut préciser ce que signifie la matière là-dedans. Et bon, ça peut paraître être une discussion complètement métaphysique. Et en réalité, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans.
Ouais, c'est effectivement un problème qui nous intéresse un peu du premier ordre, parce que de nombreux objets qu'on a envie de traiter, des questions qu'on a envie d'aborder, relèvent un petit peu de ce qu'on appelle la culture, ou des phénomènes politiques, mais pas immédiatement le lourd, quoi, l'économique, la détermination matérielle en première instance, en dernière instance, etc. Et on aimerait montrer dans cette revue qu'il y a un intérêt pour une critique du capitalisme, une compréhension du capitalisme, à interroger la complexité de ces phénomènes qu'on relègue parfois dans la catégorie d'idéologie, parce qu'ils nous apprennent quelque chose de cette société. Et ils ne sont pas que des reflets déformés, vaporeux, etc., qu'il faudrait ramener à leur véritable noyau matériel, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire la logique des catégories, de la valeur, etc. En fait, je pense que ça part d'une conception de la société comme ne se réduisant pas au mode de production capitaliste au sens économique, mais comme étant conditionnée par cette structure. Mais il faut bien comprendre que ce qui fait une société, c'est l'ensemble des rapports sociaux qui, eux, intègrent de manière essentielle, en fait, tout ce qui relève de l'idéologie. Les rapports sociaux sont structurés de manière immanente par des phénomènes tels que la racialisation. Et je pense que ça, c'est une distinction qui nous tient à cœur, celle entre l'économique en tant que telle et le social, la société, les rapports sociaux dans toute leur richesse qui ne sont pas détachés, qui ne sont pas une base détachée des phénomènes idéologiques, mais qui intègrent ces phénomènes dits idéologiques. Ce qui nous gêne ensuite, je pense, dans le concept d'idéologie, ce n'est pas simplement le fait d'y voir une sorte d'apparence qui voilerait la réalité, celle qui serait le sérieux à étudier, le reste étant en fait de l'ordre du jeu, de l'inessentiel, etc., par exemple l'esthétique. Non, on pense que c'est intéressant. Le problème étant de voir aussi dans l'idéologie une simple fonction, donc dans tous les phénomènes qui relèveraient de la culture ou des représentations, etc., une fonction du système pour sa reproduction, pour sa perpétuation. Et par exemple, là, c'est un peu sur les questions esthétiques. Est-ce qu'on veut interpréter toute production esthétique immanente à ce système, à ce monde, c'est-à-dire par exemple la culture populaire, comme étant d'emblée, disons, une fonction de la domination de ce système, et que les cultures populaires, du coup, seraient déjà aliénées à la domination de ce système. Et ça, en fait, c'est un argument qui est défendu pas seulement par des matérialistes un peu brut classique, mais c'est aussi un argument qui a été porté par une tradition qui a essayé de mettre au cœur l'esthétique dans la critique sociale du capitalisme, la théorie critique, cette école de Francfort à laquelle on se rattache d'une certaine manière. Mais on est assez critique par rapport à la tendance qu'a eue cette école de Francfort. On connaît assez bien ça chez Adorno, de voir dans les phénomènes de culture populaire des simples expressions de l'industrie culturelle aliénante du capitalisme. Et au contraire, on pense que dans ces phénomènes culturels, esthétiques, se joue en fait beaucoup plus, notamment l'expérience d'individus et de groupes, d'individus appartenant à des groupes, pour se positionner et se réapproprier des éléments de ce système-là. Alors maintenant, si j'ai envie de conclure un peu sur tout ça, juste pour dire pourquoi on n'est pas idéaliste au sens où le serait par exemple des partisans de ce que tu appelles le tournant ontologique, c'est parce qu'on défend le conditionnement des possibles par ce système de contraintes qu'est l'échange marchand, la valorisation du travail, le fait de devoir se vendre sur un marché du travail pour subvenir à ses besoins. Et on ne peut pas simplement se contenter de dire qu'il faut inventer un nouveau mode de vie et projeter un nouvel imaginaire dans notre monde pour le dépasser. C'est ça, c'est quelque chose d'important pour nous de pas avoir une forme d'idéalisme ici au sens politique du terme, en fait. Le fait qu'on pourrait se libérer des contraintes qui pèsent sur nous par l'invention de nouveaux imaginaires.
Oui, donc si je comprends bien, en fait, il s'agit du coup de ne pas retomber dans les apories un peu classiques du marxisme, c'est-à-dire l'économicisme, le réductionnisme, le fonctionnalisme, voilà, tout un tas de voilà, d'aporie, avec aussi des oppositions très schématiques entre base et superstructure. Et en fait, il y a une tentative, disons, de penser à partir, notamment, hein, des catégories marxiennes, mais de manière un petit peu plus fine et moins schématique, disons, sans les plaquer sur les phénomènes, sans ranger chaque phénomène dans une case, ah bah tiens, ça relève de l'idéologie, ou ça relève de la structure, parce que par exemple, pour la question du racisme, évidemment, on est un petit peu emmerdé, parce qu'en fait, c'est un petit peu des deux, et peut-être même que j'ai l'impression que vous dites, c'est que c'est pas seulement un peu des deux, mais c'est en fait au-delà des deux, c'est transversal aux deux, et du coup, j'ai l'impression que dans la revue, il y a une tentative de penser les rapports sociaux dans toute leur complexité, dans leur dimension esthétique, culturelle, économique, etc., etc., sans faire de ces catégories de politique, d'économique, vraiment des domaines de la réalité très tranchés. Je pense que c'est évidemment pas le propos. Mais du coup, j'ai l'impression que justement, ce serait peut-être le moment d'expliquer pourquoi vous avez appelé votre revue Stoff, parce qu'il me semble que justement, l'étymologie ou l'utilisation par Marx du concept de Stoff a à voir justement avec cette complexité des rapports sociaux qui sont faits à la fois de matériel, entre guillemets, et de symbolique.
Ouais, le terme Stoff, alors c'est un peu un jeu, hein, parce que on trouve plusieurs usages du terme chez Marx, mais notamment l'étymologie du mot, ça veut dire étoffe. Hein, c'est un tissu, une toile. Hein, c'est en fait de la matière qui est pas brute, hein, mais de la matière qui est organisée, qui a du sens, qui est structurée, qui se situe du coup à l'intersection en fait du niveau qu'on pourrait dire de la contrainte corporelle, physique et du sens qu'on lui donne. En fait, il y a notamment chez Marx un usage du terme de Stoff qui est pour dire juste le moment matériel de la richesse, mais il y a aussi un usage qu'il en fait pour dire le réel dans sa complexité, et le réel dans sa complexité auquel on veut rendre vie par la théorie, dans cette démarche-là qui consiste à se l'approprier et puis le restituer et alors seulement l'intégrer dans une interprétation, mais ne pas projeter sur lui ce qu'il devrait être. Alors après, le terme Stoff voilà, désigne du coup cette approche.
Je pense que c'est en fait ces formulations, elles sont vraiment justes. Le réel dans sa complexité, mais en revanche, le réel dans sa complexité, c'est pas ce constat-là auquel on s'arrête, puisque le réel dans sa complexité, ça pourrait aussi dénoter une approche que certains et certaines qualifieraient de postmoderne, d'accord, qui consisterait à dire qu'en fait, voilà, il y a une irréductible complexité et diversité de la réalité, et que le nouveau projet théorique, ça devrait être en quelque sorte de rechercher les différences irréductibles et les singularités insaisissables par le concept, d'accord. Alors nous, on n'est pas dans cette démarche-là, puisque justement, quand on parle d'un réel qui est structuré comme une étoffe, c'est plutôt pour désigner à la fois ce qu'on aimerait faire dans nos enquêtes théoriques et empiriques, mais aussi en même temps la difficulté de la tâche. Puisque pour parvenir à cet état où on reconstitue en quelque sorte les rapports sociaux et l'expérience que nous en faisons, c'est un sacré travail. Pour moi, ça désigne certes une démarche, mais aussi en quelque sorte une sorte d'idéal, quoi. C'est vers ça qu'on tend, d'où l'intérêt de se donner ce nom pour disons la face visible de nos discussions dans la revue, dans le site.
Alors du coup, pour l'instant, on a beaucoup parlé donc du projet général et du cadre théorique général de la revue Stoff. Il se trouve que un peu en écho à certaines préoccupations dont on a discuté jusque maintenant, que vous avez interviewé Michael Heinrich en 2018 sur la critique marxienne du capitalisme. Justement, donc ça s'appelait « Que peut la critique de l'économie politique ?», qui est aussi un petit peu une sorte de question sous-jacente à toute cette discussion. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez interviewé Michael Heinrich, qui il est, quel rôle, quelle place il occupe dans les débats à la fois théoriques en Allemagne et puis aussi dans le débat interne à la revue.
Du coup, qui est Heinrich? En fait, je crois que la réputation qu'il a, c'est d'être un marxologue. quelqu'un qui, du coup, fait une sorte de lecture exégétique des textes de Marx et qui, en plus, aurait une forme de dédain ou de désintérêt pour la lutte des classes. C'est à peu près souvent comme ça qu'on a l'habitude de le présenter ou de le concevoir en France. C'est une image très erronée à beaucoup d'égards parce que, au contraire, et c'est précisément ça qui nous a emmenés vers Heinrich. Au contraire, Heinrich, c'est quelqu'un qui, bien qu'il ait une connaissance parmi les plus fines et les plus informées des textes de Marx, c'est pas quelqu'un qui considère que tout est là. Que, en fait, on aurait déjà, dans les textes de Marx, et notamment les textes du Marx de la maturité, toutes les pièces à partir desquelles on va pouvoir, nous, reconstruire la vraie critique de l'économie politique. Au contraire, c'est quelqu'un qui, au-delà du coup de la pure et simple marxologie, se pose vraiment des questions sur le caractère heuristique ou non, c'est-à-dire sur l'apport en termes de connaissances ou non des concepts et des théories développées par Marx. Là où ça nous intéresse tout particulièrement, c'est que toutes ces choses qu'on a évoquées à l'instant sur justement cette question de savoir dans quelle mesure on peut se contenter des concepts de la critique de l'économie politique et dans quelle mesure, au contraire, ces concepts s'avèrent insuffisants et ont besoin d'autres relais théoriques en quelque sorte. Eh bien, ça, c'est une question qui a été traitée et abordée par Heinrich, et nous avons choisi, du coup, d'axer un certain nombre de nos questions qu'on lui a posées là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Heinrich ? Eh bien, ça veut dire qu'il s'agit d'être au clair sur l'objet de ces concepts de la critique de l'économie politique. Que fait Marx, en fait, dans les livres qui compose le Capital, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'il est en train de parler ? Est-ce qu'il est en train de parler des sociétés capitalistes, au sens des formations historiques dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui ? Ou, et ça c'est la thèse défendue par Heinrich, est-ce qu'il n'est pas plutôt au contraire en train, comme il le dit lui-même par ailleurs, de dessiner la moyenne idéale du mode de production capitaliste, c'est-à-dire ce qui, indépendamment, c'est-à-dire abstraction faite des conditions historiques et géographiques, appartient essentiellement à ce système. Évidemment, ce genre de considérations peuvent sembler extrêmement abstraites. On peut avoir l'impression que, en fait, là, on est en train de faire du métamarxisme et que ça sert à rien. Mais au contraire, pour nous, ça, c'est les questions les plus concrètes. Ça, en fait, c'est les questions qui nous permettent vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait des textes que nous tenons de Marx ? C'est-à-dire, avant de poser la question de la réactualisation de l'actualité de l'économie politique, ben, il faut bien savoir un petit peu quel est son objet. Et avant de savoir en fait, on aurait là toutes les clés de compréhension des sociétés dans lesquelles nous vivons, ben, il faut savoir, en fait, dans quelle mesure c'est vrai, ça ? Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment, en fait, une sorte d'approche à partir de laquelle on pourrait tirer les fondements d'absolument toute analyse qu'on va faire des antagonismes qui se déploient devant nous aujourd'hui. Cela dit, il peut sembler un peu étrange, peut-être dans le premier numéro d'une revue comme ça, d'accorder une place aussi importante à un entretien, qui plus est avec quelqu'un qui a un positionnement clairement identifiable sur Marx. Mais précisément, on a trouvé en quelque sorte dans ces échanges avec Heinrich un écho de nos propres discussions. C'est-à-dire que nous non plus, nous ne sommes pas des gens qui considérons que pour une raison X, la lutte des classes serait désuète ou serait un phénomène secondaire au profit d'une analyse, je sais pas, du capitalisme qui aurait tout intégré sur son passage et ainsi de suite. Non, au contraire, en fait, nous, on a plutôt tendance à penser que, en fait, il faut situer la lutte des classes, lui donner sa juste place. C'est-à-dire ne pas forcément en faire l'alpha et l'oméga de toute considération qu'on peut faire sur le développement des sociétés capitalistes. Donc c'est un petit peu ce genre d'explicitation de méthode qui nous ont beaucoup intéressés dans la lecture de Heinrich et qui, nous l'espérons, apparaissent d'une façon vraiment claire.
Alors juste pour voilà, pour pas mécomprendre la lecture qu'on en fait, enfin, Heinrich, quand il fait ce concept-là de moyenne idéale à partir du texte de Marx, c'est qu'il dit Marx essaie de dégager la moyenne idéale des lois qui régulent le capitalisme et des tendances qui l'animent. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est une sorte d'universalité valable partout, dans tout temps, dans toute société qui est capitaliste de la même manière. En fait, elle est une sorte de structure ou de tendance qui après se particularise de manière concrète. Comment, par exemple, le capitalisme va définir le salaire, le niveau de salaire, l'évolution de la condition ouvrière, etc. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont déterminées uniquement par des lois de la moyenne idéale du capitalisme. Hein. C'est des choses qui sont aussi qui se particularisent selon justement ce facteur de lutte des classes qui a une place dans la lecture que Heinrich fait du Capital. Et c'est important pour nous de ne pas dire que les lois économiques détermineraient par avance l'ensemble des phénomènes qui font une société dans toute sa particularité, mais qu'elle délimite un certain nombre de tendances qui sont visibles de manière transversale. Il y a cet élément-là qui est important dans la lecture que Heinrich fait de Marx. Et puis, un autre élément qui est important, et là, c'est plus, son étude un peu philologique ou biographique de Marx, c'est de montrer, c'est un truc sur lequel il a beaucoup insisté, c'est de montrer que Marx a pas mal évolué, en fait, dans son parcours. Qu'il a pas mal évolué en fonction des différents problèmes qu'il a rencontrés et qu'il n'est pas arrivé au bout de son projet, hein, que le Capital, notamment, c'est un ensemble de manuscrits sur le très long terme, un ensemble de versions d'ailleurs, dont un seul tome d'une seule des versions est publié. Et qu'en fait, il a jamais fait aboutir de manière totale ce projet, et que une sorte d'appareil critique marxiste dogmatique tel qu'il peut être utilisé, qu'il a pu être utilisé dans l'histoire du marxisme et qu'il a pu être repris ou qui peut être encore repris aujourd'hui, c'est un truc qui a été reconstruit dans l'après-coup. Et ce serait dommage de figer un peu ce projet théorique au lieu de justement le considérer comme une dynamique dont on peut s'inspirer pour aussi avoir une approche un peu dynamique de cette réalité qu'est le capitalisme, quoi. Et justement, un des exemples sur lequel Heinrich revient pas mal, c'est cette fameuse loi d'évolution du capitalisme que Marx aurait cherché à dégager d'une certaine manière au début de son projet, qui est la baisse tendancielle des taux de profit. Le fait que il y a une baisse de la valeur que peut dégager le capitalisme d'un point de vue tendanciel, du taux de ce profit, qui conduirait à une aggravation des crises jusqu'à amener une sorte de crise finale, un effondrement du fait de la dimension insoutenable de la contradiction. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez prégnant dans une histoire du marxisme traditionnel, mais qui en fait est revenu aussi à la charge dans certaines lectures qu'on peut faire aujourd'hui de Marx, dans la critique de la valeur, par exemple. Et Heinrich, du fait de sa lecture très fine du projet de Marx, peut nous dire, mais en fait, c'est quelque chose que Marx n'est pas parvenu à prouver de manière définitive et qu'il a lui-même en partie abandonné dans ses derniers manuscrits. Donc on peut être attentif à ce genre de choses aussi avec la lecture que fait Heinrich. Voilà, nous, on n'est pas partisans d'une lecture du Capital qui serait prospective, qui nous dirait ce que serait l'avenir du capitalisme et ce qu'on peut attendre du futur. Non, on est assez, je pense, attentif, au contraire, à des mutations qui se jouent de manière assez inattendue et qui attirent notre attention, quoi. On peut, voilà, par exemple, le développement et l'issue que peut prendre une crise telle que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un truc qui nous intéresse et qu'on aimerait explorer sans présupposer sur son issue, ce qu'elle devrait être du point de vue d'un idéal politique, quoi. Je pense que pour mettre un peu en contexte, c'était important de rappeler ça.
Oui, du coup, on pourrait dire un petit peu en blaguant que d'une certaine manière, Stoff, c'est une forme de poursuite un petit peu du geste marxien de se réinterroger sans cesse.
Non, c'est pas une poursuite, c'est l'accomplissement final de ce geste.
Oui, je pense que c'est important aussi d'avoir un projet modeste aujourd'hui face justement à la résurgence des grandes idéologies. Du coup, effectivement, j'ai l'impression que le rapport de Heinrich à Marx est aussi un peu le rapport que vous pouvez avoir à Marx, dans le sens où j'ai l'impression que pour vous, cette moyenne idéale, cette espèce de noyau structurel du capitalisme, pour vous, ça délimite les possibles de la réalité sociale, mais évidemment, on ne peut pas comprendre la réalité sociale uniquement à partir de cette moyenne idéale, ou disons de ce noyau structurel du capitalisme, qu'il y a une différence entre eux qui fait qu'on ne peut pas simplement plaquer les catégories de base du capitalisme sur la réalité pour les comprendre. On ne peut pas non plus, comme le font parfois certains courants marxiens ou marxistes, plaquer les catégories et surtout la logique structurelle du capitalisme sur le mouvement réel de l'histoire, puisque en réalité, eh bien, oui, certes, il y a des tendances logiques, structurelles, lourdes du capitalisme, mais pour autant, la réalité historique s'avère beaucoup plus complexe. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que, même si je le disais sous forme de blague, mais que Stoff essaie justement de ressembler plus au Marx réel, notamment un Marx qui se questionne en permanence, qui revient sur certains de ses présupposés fondamentaux dans son rapport, par exemple, à l'écologie, et qui a une sorte de mouvement de va-et-vient qui fait que, entre théorie et réalité, qui fait que parfois la théorie aussi, elle peut se modifier et qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes dans le livre 1 du Capital. Par rapport à ça, il y a évidemment un débat qui est un petit peu central aujourd'hui, même entre les courants qui ont dépassé d'une certaine manière une forme de programmatisme où la classe ouvrière serait investie d'une mission historique de créer la société communiste en s'affirmant comme classe du travail. Il y a un enjeu quand même assez central dans l'interview de Heinrich, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément complètement d'accord avec Heinrich, c'est comment est-ce que vous vous positionnez du coup sur à la fois l'articulation et la place respective qu'il faut donner à la dimension impersonnelle de la domination capitaliste et à sa domination plus personnelle, donc le rapport de classe. C'est évidemment quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé tout au long de cette émission, mais est-ce que vous pourriez un petit peu préciser peut-être quelle est la position de Heinrich sur le sujet et quelle est, vous, votre position là-dessus ?
Alors, à vrai dire, moi, je ne suis pas forcément sûr de voir dans l'entretien à quel moment il y aurait nécessairement une opposition entre nous là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la domination impersonnelle en tant que telle, bon, il faut quand même rappeler que ce n'est pas vraiment un concept que Heinrich promeut en tant que tel. Bon, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ses textes, mais disons, ça ne joue pas l'espèce de rôle central et fondateur que ça joue, par exemple, chez quelqu'un comme Poston, où, en fait, la domination impersonnelle, eh bien, c'est ce qui va caractériser la société capitaliste dans la mesure où ce qui y asservit les gens, ben ce ne serait plus des personnes incarnant un certain pouvoir politique ou religieux, mais bel et bien des abstractions économiques qui renverraient d'une manière ou d'une autre à la valeur, à l'argent, etc. Nous, dans nos discussions, par ailleurs, ce concept ne joue pas un rôle central, je dirais. Il faudrait aussi savoir ce qu'en dit l'ami. En fait, domination impersonnelle, pour tout vous dire, c'est un concept que je vois un peu comme quand on dit racisme structurel ou racisme institutionnel ou ce genre de concept. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est des concepts très généraux, composites, qui, en fait, pour moi, vise plutôt à donner une orientation aux recherches et éventuellement aussi aux luttes dans lesquelles on est engagé, mais qui n'ont pas forcément, de mon point de vue, une très forte valeur descriptive ou analytique. C'est un constat qui est si général qu'il ne peut que servir à dresser un diagnostic, d'accord, de dire qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes régis par des abstractions. Mais même là, c'est un petit peu difficile de voir ce que ça saisit de spécifique. Moi, c'est le premier constat que je ferais, c'est que c'est pas forcément un concept que je trouve très utile. Par ailleurs, je trouve qu'il a même une tendance à parfois constituer un obstacle à la compréhension qu'on peut se faire des sociétés dans lesquelles on vit, étant donné que impersonnel, ça impliquerait, certes non pas qu'il n'y ait plus de personnes impliquées dans les rapports sociaux, c'est pas ce que pose cette thèse, mais plutôt que ça a tendance, encore une fois, à faire disparaître un certain nombre de médiations sociales et politiques, ne serait-ce que tout simplement le fait que ces rapports sociaux de domination qui notamment imposent et contraignent un certain nombre de gens à vendre leur force de travail, eh bien, en fait, elles sont aussi structurées, composées par des interactions qui peuvent être notamment prendre la forme de lutte. Là où, du coup, disons stratégiquement, aussi bien pour la théorie que dans notre positionnement pratique, là où, du coup, parler de domination impersonnelle me paraît pas forcément très, très utile, c'est que, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de viser par ce concept, en fait ? D'accord, soit nous vivons dans des sociétés structurées autour de la production de marchandises, et ça donne lieu à un certain nombre d'antagonismes. Mais pour autant, en fait, quand des personnes qui font l'expérience de l'exploitation se mettent en lutte, jamais elles vont dire qu'elles sont en train de s'opposer ou se représenter comme étant en opposition à ce genre de phénomènes généraux. Donc c'est quelque chose qui, du coup, a tendance à nous placer sur un plan qui est pas vraiment, enfin qui est extrêmement éloigné en fait des enjeux réels et urgents dans lesquels nous nous trouvons.
Pour préciser là ce qu'entend Heinrich par sa reprise de la notion dans l'interview, il va plutôt la remettre à sa place, ni plus ni moins, contre l'inflation de sens qu'on a voulu lui donner pour expliquer plein de choses. Voilà, dans le capitalisme, la domination est impersonnelle. Parce qu'elle ne dépend pas du statut personnel du dominant, quoi. Elle ne dépend pas d'un autre statut que celui d'un propriétaire qui a bien réussi dans le jeu de la concurrence. Mais elle ne dépend pas d'un privilège juridique qu'il aurait en tant que seigneur, en tant que, ou alors propriétaire d'esclaves, etc. Et une interprétation un peu plus abstraite et un peu plus générale du terme consisterait à dire que la domination du capital s'exerce indépendamment de la volonté et indépendamment de l'action et indépendamment de l'expérience et indépendamment de l'organisation des individus dans cette société. Comme une sorte de machine qui progresse de manière implacable, un bulldozer impossible à arrêter. Voilà. Et c'est cette dimension-là un peu totalisante qu'on refuse au concept. Et par exemple, ça peut prendre des applications variées, mais on refuse aussi le fait de dire que les individus qui font l'expérience de quelque chose et qui donnent un certain sens à cette expérience dans cette société-là ne seraient en fait que les fonctions d'une structure de domination plus large qu'eux et qu'elles. Par exemple, des individus qui participeraient d'une création artistique, soit de manière active, soit en tant que... Enfin, c'est toujours de manière active, mais soit en tant que créateur, soit en tant que récepteur d'œuvres d'art, seraient juste en train de reproduire une idéologie qui agirait à travers eux, à travers elles, à leur insu. Et non, on pense qu'il y a en fait une marge de manœuvre, une marge d'expérience qui est là quand même dans le monde dans lequel on vit et qui n'est pas toujours... le rôle n'est pas toujours prédéfini à l'avance par le système, quoi.
Ce qui veut pas dire, comme ça a déjà été précisé, que par ailleurs, il n'existe pas quelque chose comme cette domination impersonnelle, mais simplement, il s'agit de mettre cette chose à sa juste place. Et le moment où c'est évoqué dans l'entretien, c'est précisément, notamment aussi, pour parler d'une logique objective, sachlich, propre à nos sociétés, une logique économique qui se présente comme relevant d'une nécessité quasi naturelle. En fait, qui intervient notamment pour justifier, dans la conjoncture dans laquelle nous vivons, les mesures d'austérité, toute forme de coupe budgétaire ou de restructuration des services publics. Donc, où il s'agit en fait toujours pour les capitalistes ou les politiciens de dire que là, ce que nous faisons, ce n'est que obéir aux lois qui ne relève pas de nous en tant que personnes prenant des décisions ou de telle ou telle orientation politique ou alors de la société dans laquelle nous nous trouvons, mais il n'y a juste pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres... Et donc, de fait, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, ce que permet de comprendre quelque chose comme le concept de domination impersonnelle, ou en tout cas d'entrevoir, c'est que justement, il existe réellement une telle logique objective. C'est-à-dire que nous y sommes... soumis, ou alors on essaye de nous la faire avaler.
Et pour prendre un exemple, un petit peu de toutes ces histoires-là, j'ai envie de faire référence à la situation actuelle et aux différentes mesures qui ont été prises par les capitalistes pour faire face à la situation sanitaire et tout ça. on pourrait dire qu'il y a effectivement ici une forme de logique impersonnelle et objective du capital dans le fait de ne pas pouvoir arrêter complètement les sphères productrices de valeur. Toutes ces mesures qui ont été prises n'ont jamais remis en question de manière totale en fait la logique de valorisation. Par contre, il y a eu une sorte de marge de manœuvre certaine dans les manières de traiter les questions sanitaires, de sorte que, par exemple, un personnage comme Trump ou un personnage comme Macron n'est pas que la marionnette d'un système capitaliste qui est là avant toute chose, il est aussi l'expression d'une configuration politique spécifique géographiquement, liée à certains antagonismes qui sont variables et qui déterminent des choix précis en termes de mesures sanitaires, de politiques, soit de déni sanitaire, soit etc., etc. Donc je pense que c'est ce genre d'exemple qui peut illustrer la chose.
Si je comprends bien, en fait, il s'agit du coup de ne pas tomber dans un schéma un peu monolithique, soit de la domination impersonnelle qui expliquerait tout, on peut avoir l'impression en tout cas dans la critique de la valeur, ou dans une espèce d'explication monolithique de tout par les rapports de classe, mais que vous essayez de prendre en compte à la fois la marge de manœuvre des acteurs et à la fois l'existence de contraintes impersonnelles. Maintenant, on a surtout parlé du coup de l'articulation qu'on pouvait faire entre domination impersonnelle et domination de classe. Est-ce que sur la question de l'articulation de la domination impersonnelle et de la domination de classe avec la racialisation ou le patriarcat, est-ce que globalement vous rejoignez ce que dit Heinrich à la toute fin de l'interview, c'est-à-dire que ce sont des théories et des réalités, donc la racialisation et le patriarcat, qu'on peut articuler avec une critique marxienne, mais qui ne peuvent pas se réduire à la critique marxienne, qu'on ne peut pas expliquer par le jeu des catégories, ou uniquement par la division du travail, comme vous l'avez un petit peu dit. Et est-ce que, à partir de l'exemple de l'article sur l'antisémitisme, qui en fait pourrait être étendu à d'autres formes de racialisation ou à d'autres formes de domination personnelle, entre guillemets, interpersonnelle, comme les rapports de genre, de les penser dans leur spécificité sans les réduire ni à la domination de classe ni à la domination impersonnelle.
Alors, dans la manière dont nous projetons nos discussions et nos publications pour un futur proche et peut-être aussi, qui sait, pour un futur plus lointain, et on n'a pas forcément, disons, une sorte de checklist comme ça, des questions qu'il nous faudrait traiter. Donc la question du patriarcat, la question du racisme. En revanche, ce qu'on aimerait continuer à faire, c'est se donner des objets, enquêter sur eux, en fonction toujours des enjeux que nous repérons dans les luttes qui se déploient autour de nous et dans lesquelles nous sommes parfois pris. Et de ce fait, dans la mesure où c'est un petit peu ça, souvent le critère qui va nous guider, on va être emmené sans doute à se remettre en cause, des manques dans nos perspectives théoriques. On a eu un certain nombre de discussions sur, disons, la faiblesse de notre conceptualisation du genre, voire de son absence. Mais disons que ce soit par rapport à cette question ou d'autres, il me semble que c'est l'objet qui doit primer. C'est-à-dire que là, dans un avenir proche, on a prévu de continuer à travailler sur les vagues de lutte de 2019, de 2020. On a assisté à des soulèvements, des émeutes considérables, à peu près sur tous les continents, en fait, de manière plus ou moins synchrone, en plus, en tout cas pour ce qui est de l'année 2019. Et dans ce cadre, évidemment, ce serait impossible de faire l'impasse sur les luttes de femmes et sur les luttes contre la racialisation. Et donc, forcément, être confronté à des questions qui nous obligent à affiner nos outils et voire à remettre en cause les présupposés qui ont pu nous aveugler par rapport à certaines choses par le passé.
Et puis sur la question du rapport de ces critiques qu'on peut ou pourra mener par rapport à des dominations patriarcales et raciales, et c'est évident qu'on va pas trouver clé en main des outils pour en traiter dans l'œuvre de Marx. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire, en fait. Je pense qu'on est animé par cette curiosité d'aller se nourrir et d'aller lire, en fait, des choses qui se font bien en dehors d'un champ théorique marxiste très réduit, et de comprendre, en fait, que le capitalisme, s'il est structuré par une logique économique, se déploie de manière beaucoup plus complexe, et qu'il faut prendre en considération ces différents éléments.
Moi, ce que j'aime bien dans la réponse que donne Heinrich à cette question sur enquêter sur le genre, sur la racialisation, c'est que en fait, il dit qu'on peut rien dire a priori sur la capacité de l'économie, de la critique de l'économie politique, d'intégrer une théorisation toute faite comme ça de la segmentation raciale ou de la domination de genre. Qu'au contraire, en fait, il est tout à fait possible qu'il faille envisager la chose autrement, en se disant que, en fait, le travail qu'on a à faire, c'est un travail de tentative de synthèse, mais qui ne suppose pas qu'on puisse forcément intégrer dans la critique de l'économie politique ou dans la théorie marxiste telle qu'elle existe une approche de la stigmatisation raciale ou de la domination de genre. Les liens sont à construire. On ne peut pas d'emblée statuer sur quelle va être la porte d'entrée pour tel ou tel rapport social de domination dans la théorisation dont nous disposons de l'exploitation spécifiquement capitaliste. Après, ce qu'on peut savoir, c'est que très certainement, si on ne se donne pas ce cadre théorique de l'exploitation spécifiquement capitaliste, il y a aussi des choses qu'on ne va pas voir de ces rapports qui sont ceux donc les rapports sociaux de race et de genre. On va pas avoir, voilà, on va pas avoir la même approche si on considère, par exemple, que la domination masculine, elle est complètement déconnectée de l'emprise de la production marchande sur nos vies. On ne va pas avoir la même approche si on considère que, en fait, les rapports entre blancs et noirs sont les rapports les plus structurants de nos sociétés et du monde. Donc, ça va dans les deux sens. Les liens sont à construire, et ça implique, là encore, de ne pas avoir cette démarche qui consiste à vouloir insérer dans un système déjà élaboré des réalités qui peut-être ne peuvent pas simplement y être subordonnées comme ça.
Donc, merci beaucoup du coup de nous avoir un petit peu éclairé sur le projet de votre revue et sur votre rapport du coup à la critique marxienne du capitalisme. Alors évidemment, on a abordé quelques points qui sont dans la trame et qui sont dans l'entretien. Donc, on invite évidemment nos auditeurs et nos auditrices, ben évidemment, à lire la revue Stoff et notamment voilà, cet entretien avec Michael Heinrich qui est très intéressant et très complet, qui revisite notamment des questions, je trouve, de manière très intéressante sur la question de l'aliénation, du fétichisme, bon, des trucs un petit peu techniques qu'on n'a pas jugé bon d'aborder aujourd'hui, mais en tout cas qui sont abordés de manière très intéressante. Et puis évidemment, on vous retrouvera du coup pour d'autres émissions sur les autres articles qui sont dans cette revue dans le numéro 1, du coup sur l'antisémitisme, sur le populisme et sur la techno et la crise du Fordisme à Détroit. Donc merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
Merci à toi.
Sans doute. L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.